Ma grande, elle sait pas du tout. Je lui ai jamais dit le nom de Siri, en fait, donc je veux pas qu'elle le sache, en fait. Je sais même. Et j'imagine pas, en fait, à plus tard, si j'aimerais qu'elle le sache aussi. Parce que moi, je suis pas fier de les avoir emmenés là-bas. Je sais pas si je leur dirai ça un jour, en tout cas.
Pour l'instant, vos enfants ne savent pas que leur père est encore en Syrie.
Non, ils savent que leur père est loin, qu'il peut pas revenir et que nous, on peut pas aller le voir parce que c'est très loin. Quand ma fille, elle me dit, ma grande, des fois que son père lui manque. Et je lui dis, papa, il n'est pas là, et je lui fais comprendre qu'on ne le reverra pas, en fait.
Vous avez été jugé par la justice pour être parti en Syrie. Vous avez été condamné à porter un bracelet électronique. Est-ce que ça, vous allez l'expliquer à vos enfants?
Je pense pas. En fait, je sais pas. Je préfère qu'ils le voient pas. Je ferai en sorte qu'ils le voient pas. Et si un jour ils le voient, je pense pas que je leur dirai c'est parce que maman a fait telle ou telle chose. Il y a certaines choses que je sais pas comment je pourrais aborder avec mes enfants. J'y réfléchis pas vraiment parce que je sais pas. On va dire que c'est tellement gros que je sais pas. Donc, il faudrait que je voie comment faire. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer.
Bonjour à tous. Sarah, que vous venez d'entendre, purge actuellement une peine sous bracelet électronique. Elle est l'une de ces fiancées du djihad rencontrées par Sophie Parmentier, dont le reportage avait été récompensé par le Grand Prix CB News des médias. Sophie a continué à travailler sur le sort des enfants confrontés au groupe État islamique. On estime à 400 le nombre des mineurs français en zone irako-syrienne. La moitié d'entre eux ont moins de 6 ans. Certains sont nés dans l'emprise de l'organisation État islamique et ont été rapatriés avec leur mère. D'autres plus âgés avaient quitté la France et sont revenus. Ou encore avaient seulement projeté de partir. Une cinquantaine de ceux-là sont mis en examen, une quinzaine ont été jugés et une dizaine de procès vont avoir lieu prochainement. Certaines des voix que vous allez entendre ont été déformées. Quant au juge des enfants, leur parole en la matière est totalement inédite.
Interception, le magazine de la rédaction.
Marion a un peu plus de 20 ans et un bébé qui fait ses premiers pas. C'est en Syrie qu'elle lui a donné naissance, sous le califat de Daesh. Elle rêvait alors d'y construire une vie de famille heureuse, après avoir fui son petit pavillon de banlieue où elle se sentait mal vue avec son jilbab, ce long voile qui recouvre le corps de la tête aux pieds sans cacher le visage. Aujourd'hui, Marion préfère la mode occidentale, un simple foulard noué sur ses cheveux crépus.
Je suis partie en Syrie en décembre 2014. Je voulais déjà quitter la France, parce que quand j'étais en France, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à mon voile. Beaucoup d'insultes, ou dans la rue, on me regardait mal, on me faisait carrément des menaces de mort. Donc tout d'abord, je voulais pas partir en Syrie, je voulais partir soit dans un autre pays, peut-être le Maroc ou l'Égypte. Mais bon, mes parents n'ont pas accepté. Donc à force, moi je me suis renfermée sur moi-même, j'étais souvent sur Facebook, sur YouTube, tout ça, et je suis tombée sur des personnes qui m'ont dit « Bon, bah, viens en Syrie, tu seras bien en Syrie. » Donc moi, à force, bon, je me suis dit « Bon, bah, je serai peut-être mieux là-bas, dans un pays musulman. » Donc je suis partie. Et entre-temps, j'ai rencontré mon mari sur Facebook. Et quand je suis arrivée en Syrie, là, on s'est mariés directement. Je me suis mariée deux jours après mon arrivée. Bon, il avait d'autres épouses que j'ai accepté, et les enfants aussi, il n'y avait pas de souci pour ça.
Donc vous êtes parti en Syrie dans l'idée de fonder une famille dans un pays musulman?
Oui, je suis partie dans l'idée pour fonder une famille. Au bout de 6 mois, je suis devenue maman. Ma grossesse en soi s'est bien passée, il n'y a pas eu de complications. L'accouchement aussi, ça s'est bien passé. Mais bon, là-bas, c'est pas comme en France, il n'y a pas la péridurale, on te recoue à vif, tout ça. Donc j'ai accouché à 15h et je suis sortie de l'hôpital à 18h avec mon enfant. Mais sinon, il était en bonne santé, il n'y avait aucun problème pour moi ou pour mon enfant. Tout s'est bien passé.
Vous avez passé plusieurs mois en Syrie. Est-ce que, au cours de votre séjour, vous avez assisté à des exactions? Est-ce que vous avez vu des atrocités commises, et par exemple commises contre des enfants?
J'ai déjà vu des têtes sur des piquets, des coupés qui étaient sur des piquets, des personnes qui étaient enfermées dans une cage parce qu'elles avaient vendu des cigarettes, je crois, je me rappelle plus exactement. Et un garçon, peut-être qui devait avoir 15 ans, parce qu'il n'avait pas fait le ramadan, donc il a été mis ligoté au soleil, je ne sais pas pendant combien de jours. C'est ce que j'ai vu, sinon après c'était les bombardements. J'entendais les bombardements. Dès qu'il y avait un avion qui passait, tout le monde sortait sur le balcon, on se demandait « Ah, est-ce que ça va tomber sur nous ?» Voilà. Quand il y avait les avions, on était tous blancs. Tout le monde tenait son enfant. Voilà, c'était dur.
Donc au bout de quelques mois, vous avez cherché à fuir la Syrie avec toute la famille, avec votre enfant, votre mari, l'éco-épouse de votre mari. Et à l'arrivée en France, vous êtes immédiatement interpellée, séparée de votre enfant. Comment les choses se sont passées ?
Arrivé à l'aéroport, directement, on nous a séparés avec la coépuse avec qui j'étais venue. Donc à ce moment-là, ils m'ont dit que j'allais être en garde à vue, que voilà, je devais répondre à des questions, donc il n'y avait pas de souci, parce que ça, on s'y attendait. Puis là, il m'a dit qu'il faut qu'on prenne votre fils, on va le placer, mais si en gros, après les 96 heures, il n'y a rien contre vous, vous pourrez le récupérer directement à la sortie. Donc moi, là, j'ai laissé. En plus, il dormait à ce moment-là. Donc je l'ai laissé, et ils l'ont pris, ils sont partis avec, et moi je suis partie en garde à vue pendant 96 heures. Et après ça, j'ai été libérée après les 96 heures, mais finalement, j'ai pas pu récupérer mon fils. J'ai dû attendre trois semaines peut-être maximum pour pouvoir le récupérer. Je comprenais pas pourquoi déjà, en fait, il avait pas été placé chez ma famille. J'aurais préféré qu'il soit placé chez ma famille parce que...
C'était brutal, en fait, pour votre enfant. C'était un bébé, à l'époque. Il avait... quel âge il avait, en fait ? Vous étiez encore en train de l'allaiter, et il dormait, et il s'est retrouvé tout à coup sans sa maman pendant plusieurs semaines, en fait. C'est comme ça que les choses se sont passées pour vous ?
Oui, il avait 7 mois, et effectivement, je l'allaitais. Donc, quand ils ont dû le prendre, je pense que, comme d'habitude, la nuit, il se réveille pour téter. Là, à ce moment-là, il a dû se rendre compte que j'étais pas là. Donc je pense que la nuit, ils l'ont pris. Là, ça devait être dur pour lui. Parce que j'étais pas là et je pouvais pas l'allaiter. Donc ça a dû être un très gros choc pour lui et pour moi aussi.
Et au bout de combien de temps on vous a donné des nouvelles de votre fils ?
Peut-être 10 jours. Il y a un éducateur qui a appelé à la maison, qui m'a dit que oui, qu'il était placé. Et qu'en gros, je pouvais le rencontrer. Donc je suis partie et je l'ai vu. Je l'ai vu pendant peut-être 30 minutes. Et à ce moment-là, j'ai vu que voilà, il avait changé, il avait un peu peur de moi. Enfin, un peu peur. Peut-être qu'il se rappelait plus de moi, je sais pas. Et en fait, il pleurait. Et quand je l'ai vu, ça m'a vraiment fait mal. Parce que pour moi, c'était un arrachement. C'est vraiment quelque chose que... C'est vraiment le plus dur pour une mère, je pense, le fait d'arracher son enfant à sa mère.
Votre petit garçon, il vient de fêter son premier anniversaire il n'y a pas très longtemps. Votre petit garçon, il est né en Syrie. Sous l'État islamique, et donc de retour en France, et bien finalement il est revenu sans papier, et pour l'instant il n'a toujours pas d'état civil, c'est ça ?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Donc depuis qu'il est revenu de Syrie, il n'a toujours pas d'état civil, il n'a aucun papier, on essaie de faire les démarches avec notre avocat, mais ça met un peu de temps. En fait, on avait des papiers, mais ces papiers-là de l'État islamique, ils ne sont pas reconnus en France, donc c'est un petit peu compliqué. Donc il y a beaucoup de choses, par exemple, si j'ai rempli des formulaires, si on me demande si j'ai un enfant ou pas, je ne sais pas trop quoi répondre parce que oui, j'ai un enfant, mais il n'a pas de papier, donc je ne sais pas s'il faut que je déclare que j'ai un enfant ou pas. Parce que sinon, ils vont me demander la preuve, et je n'ai pas de preuve que j'ai un enfant, en fait. Donc sur, ça, sur des petits trucs comme ça, c'est un petit peu compliqué.
Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que vous regrettez d'être parti en Syrie, que vous regrettez que votre enfant soit né en Syrie ?
Oui, le fait d'être parti en Syrie, oui, c'est sûr que je regrette. Et qu'il soit né aussi en Syrie, c'est quelque chose que je regrette beaucoup parce que maintenant, voilà les problèmes qu'il y a, que ce soit pour moi ou pour mon fils. Mais en gros, je ne regrette pas d'avoir eu mon enfant. Malheureusement, je l'ai eu en Syrie, mais le fait d'avoir mon fils, je ne le regrette pas du tout.
Allô ? Tu rigoles là? Comment ça être plus à l'aise? Vas-y.
Vous êtes la grand-mère de ce petit garçon qui vit avec vous aujourd'hui et votre fille. Quand votre fille est rentrée de Syrie avec son petit bébé, elle a été immédiatement interpellée et votre petit-fils a été placé en famille d'accueil. Vous n'avez été prévenu à aucun moment, vous en tant que grand-mère, on ne vous a pas du tout proposé de garder votre petit enfant?
Non, du tout, on ne nous l'a pas proposé, on m'a juste appelé le lendemain pour me dire qu'elle est arrivée à Roissy, voilà, et qu'elle était en garde à vue. Voilà. On les attendait, mais je pensais qu'on serait prévenus avant. Bon, comme ils étaient là-bas, ça faisait un moment, pratiquement plus de 3 mois, qu'ils étaient détenus en Turquie. Je pensais qu'il y aurait un travail qui aurait été fait avant qu'ils arrivent, qu'ils contactent nous, les familles, pour qu'ils puissent voir si on est en capacité de pouvoir recueillir les enfants ou pas. C'est ce qu'on espérait, même si on ne les a pas vus naître. Mais on est leur famille. Et je pense que, effectivement, pour l'enfant, ça aurait été moins brutal d'aller déjà dans une famille d'accueil, après de revenir dans sa propre famille.
Vous avez été choquée, vous, que votre petit-fils aille directement dans une famille d'accueil sans même qu'on contacte les grands-parents?
Oui, ça, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je ne pensais pas du tout. On se rend compte que nous, c'est comme si on était aussi des suspects. En tant que parents, tout est remis en question.
Même en tant que grand-parent, ouais, vous aviez l'impression d'être considéré comme suspecte alors que vous n'avez jamais mis un pied en Syrie et jamais envoyé votre fille en Syrie.
C'est le sentiment qu'on a parce que là, on est obligé de rendre des comptes nous-mêmes. Est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous avez fait toutes ces années? Ouais, tout, il faut tout dire, tout raconter. Alors que nous sommes des citoyens ordinaires. Ouais.
Votre petit-fils qui est né en Syrie, il n'a toujours pas d'état civil aujourd'hui, toujours pas de papier, parce que le certificat de naissance établi par l'État islamique, eh bien, n'a pas de valeur en France. Est-ce que ça vous semble compliqué à vivre, qu'il n'ait pas de papier pour le quotidien, pas encore?
Oui, c'est compliqué. C'est compliqué en tout, parce on peut dire qu'il n'a pas d'existence en fait. Il est là, il vit, mais on ne le connaît pas, il n'existe pas.
Il est comment votre petit-fils aujourd'hui? Il est joueur. Là, il n'est pas très bavard aujourd'hui, mais il aime. Vous jouez beaucoup avec lui?
Il joue beaucoup. Il est taquin, il est coquin. Comme je le dis, c'est un petit coquin.
Il a des grands yeux, très curieux.
Des grands yeux tout noirs, oui. Tout noirs, oui. Il est très beau.
Bon, ben, je vous dis au revoir. Merci beaucoup.
À bientôt.
Tu me dis au revoir? Tu me dis au revoir avec la main? Ah oui, en plus, j'ai besoin des clés. J'en ai besoin pour rentrer dans ma maison. Au revoir.
Dis au revoir.
Nous sommes dans les rues de Paris, tout près de la tour Montparnasse, et nous nous rendons au cabinet de Martin Pradel, qui est avocat et qui défend plusieurs jeunes femmes de retour de Syrie avec leurs enfants. Maître Pradel défend aussi des mineurs poursuivis par la justice antiterroriste.
Cabinet de Maître Martin Pradel, bonjour.
Oui, bonjour, c'est France Inter. On a rendez-vous avec Maître Pradel.
Oui, c'est au troisième étage, madame.
Troisième étage, merci beaucoup.
Bon.
Bonjour Sophie Parmentier.
On voit depuis quelques mois beaucoup de jeunes gens, notamment des jeunes femmes en fait, qui fuient Raqqa, qui rentrent de Syrie, qui arrivent en France avec des enfants qui sont souvent nés là-bas, sous Daesh, et qui reviennent donc avec des papiers qui ne sont pas reconnus par l'État français. Est-ce que vous, dans les gens que vous défendez, c'est quelque chose que vous voyez beaucoup ?
Alors ce qu'il faut comprendre, oui, je le vois beaucoup. Ces enfants sont nés dans une zone qui est une zone de conflit, dans laquelle il n'y a aucune autorité véritable, aucune autorité en tout cas reconnue par le gouvernement français et par même les États qui environnent la zone turco-syrienne qui est concernée. Donc ces personnes n'ont finalement aucun acte d'état civil d'accompli au jour où ils reviennent en France. Ça pose quelques difficultés parce que parfois les enfants dont on parle ont quelques semaines, parfois quelques mois, parfois même quelques années. Et ils arrivent sans état civil, sans aucun état civil, en France. Et ça pose des difficultés d'ordre juridique, parce que simplement, et pour être peut-être un peu trivial, simplement, juridiquement, ils n'ont pas d'existence. Les femmes qui reviennent de cette zone sont des femmes qui ont vécu une épreuve importante. Toutes sont particulièrement marquées. C'est vrai que les relations mère-enfant dans ce genre de contexte sont des relations extrêmement fusionnelles. Lorsque l'enfant est séparé de sa mère dans un moment de si grande tension qu'une garde à vue, c'est vécu par la maman, mais aussi par l'enfant, comme un véritable déchirement. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une violence institutionnelle qui s'exerce sur les jeunes mamans qui sont dans cette situation très difficile de leur vie. C'est aussi extrêmement violent pour les enfants. Et moi, ça me semble inutilement difficile, inutilement violent. Moi, mon impression, si vous voulez, c'est que ces retours sont des retours qui se font dans l'improvisation. Je ne pense pas qu'il y ait de malveillance de la part des autorités vis-à-vis de ces familles. Je ne pense pas qu'il y ait de volonté, une volonté quelconque de nuire. Mais malheureusement, cette improvisation est extrêmement dommageable. Elle est dommageable pour les mamans, elle est dommageable pour les grands-parents, et puis surtout, elle est dommageable pour les petits, qui, pendant plusieurs mois, ne comprennent pas de leur fenêtre la séparation de leurs parents, ne leur est pas expliquée, mais comment pourraient-ils la comprendre ?
Nous voici au Palais de Justice de Paris, vieille bâtisse de pierre blanche, adossée à la Sainte-Chapelle et au célèbre 36 Quai des Orfèvres. Nous sommes en train de monter les marches et nous entrons dans ce palais où se trouvent tous les juges antiterroristes, ceux qui enquêtent d'abord et puis ceux qui jugent ensuite les jeunes gens de retour de Syrie ou d'Irak. Plusieurs mineurs ont été condamnés depuis l'an dernier pour avoir voulu partir dans les rangs de Daesh ou d'Al-Qaïda ou pour avoir voulu commettre un attentat en France. À travers les longs couloirs de ce palais, nous avons rendez-vous avec deux magistrats du parquet des mineurs de Paris, deux juges qui, depuis quelques mois, voient s'accumuler des dossiers d'enfants de retour de Syrie ou d'adolescents radicalisés. Et ces magistrats travaillent au quotidien, en lien étroit, avec la section antiterroriste du parquet de Paris. Bonjour.
Bonjour, enchantée. Laetitia Dervilly, donc je suis vice-procureure, la chef de la section des mineurs. Bah, bienvenue parmi nous. Et puis je vous présente mon collègue.
Bonjour madame. Donc je suis magistrat référent en charge de la radicalisation pour le parquet des mineurs.
Aujourd'hui, au parquet des mineurs de Paris, vous voyez en tout cas depuis quelques mois arriver de plus en plus d'enfants de retour de Syrie, qui reviennent avec leurs parents. Quelle est l'attitude de la justice face à ces enfants de retour de Syrie ?
Alors, finalement, c'est pas tellement différent d'une autre procédure. Quand on a des parents qui sont rendus indisponibles pour s'occuper de leurs enfants et donc placés en garde à vue dans ces procédures, le procureur des mineurs est appelé, et le procureur des mineurs du lieu de l'ancien domicile ou parce que ils sont récupérés sur Paris. On prend une ordonnance de placement provisoire, on les place effectivement à l'aide sociale à l'enfance et on va apprécier ensuite la saisine d'un juge des enfants. Dans ces procédures, en particulier d'enquête menée par la section antiterroriste ou un juge d'instruction antiterroriste de Paris, on place ces enfants. On les place dans l'urgence, on doit faire des bilans de santé, des bilans psychologiques en fonction de leur âge, effectivement. Et puis, on va saisir un juge des enfants qui, lui, sous les 8 jours, de toute façon, doit mener une audience. Et au vu des éléments que l'on retire des informations données à la fois par l'enquête qui est menée par les services de renseignement, mais aussi par les services sociaux, on pourra fournir au juge des enfants les moyens d'apprécier s'il y a une structure familiale plus ou moins proche pour recueillir l'enfant. Parce que si nous avons des grands-parents, des oncles, des tantes, évidemment, on va privilégier ces solutions familiales. On agit et on réagit en fonction de l'intérêt de l'enfant. Si l'intérêt de l'enfant, c'est et qu'on a une sécurité qui nous est assurée sur la pertinence de le remettre à la famille, on le remettra à la famille.
Vous le dites, vous, au parquet des mineurs, les enfants, vous les considérez aussi toujours comme des victimes. Les enfants qui sont partis en Syrie avec leurs parents, pour beaucoup, ils n'ont pas choisi de partir. Et à partir de quel moment, vous allez décider d'entendre ou pas un enfant de retour de Syrie, par exemple les enfants qui ont pu peut-être aller dans des camps d'entraînement à partir de 8-9 ans. Est-ce que ces enfants-là vont être entendus quand ils vont rentrer? Est-ce qu'ils sont considérés comme des menaces potentielles ou aussi comme des victimes à cause des horreurs qu'ils ont vécues là-bas? Comment vous vous préparez à ça?
En réalité, ce qui nous saisit, c'est pas le statut de victime, c'est-à-dire c'est pas des mineurs qui sont considérés comme étant des mineurs victimes, ça n'a pas de sens au plan juridique. Ce qui nous saisit, c'est une situation de danger. Et en aucun cas, dans les situations que vous évoquez, la justice, elle n'a vocation ou elle ne se fixe pour but, que l'on soit bien clair, de confisquer des enfants à des familles qui ont pu partir sur zone. L'intervention des juges des enfants, elle n'est fondée que sur l'existence d'un danger. Et donc, dans les situations que vous évoquez, la première des choses à faire, c'est d'évaluer le risque et le danger pour ces mineurs-là, qui peuvent être les frères et sœurs de mineurs radicalisés. Et dans les situations que vous évoquez précisément, la première question, c'est de savoir si ces mineurs sont eux-mêmes radicalisés. Et donc, la première chose que l'on a à faire, c'est une évaluation de la radicalisation. On a, pour le coup, même dans le ressort parisien, des mineurs qui ont grandi à Raqqa pendant 1 an, 2 ans, qui ont été en école coranique entre leurs 4 et leurs 6 ans et qui ont vécu dans un environnement qui est un environnement radical. Et donc, si vous voulez, là, on est sur des problématiques et des situations qui sont différentes parce qu'on est sur des mineurs qui ont acquis probablement des choses qui tiennent plus de l'ordre du réflexe qu'ils ont intégré dans le cadre de leur vie, de leurs 2 années passées à Raqqa, qui effectivement sont des comportements qui sont les comportements des personnes qui évoluent dans l'univers de l'État islamique. Et ce sont ces personnes qui sont suivies. Il faut être pragmatique au titre de l'appréciation de la dangerosité et ne pas être dupe sur le danger, notamment parce qu'effectivement, ces mineurs, quand ils ont été sur zone, quand ils ont été en âge d'être scolarisés, ils ont plutôt appris à monter, à démonter des kalachnikovs sur zone, plutôt qu'à écrire correctement ou à faire des additions. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas négliger et qui nous appartient de ne pas négliger. Pour autant, si on s'en tient à ça et qu'on est résigné et que la seule réponse, c'est une réponse de répression, on passe à côté de la réalité de ces situations et on ne se laisse pas la chance de pouvoir les raccrocher à quelque chose. Et aujourd'hui, ce qui est très clair dans l'approche qui est celle de la justice, qu'il s'agisse du parquet ou de l'ensemble du monde judiciaire, c'est qu'on essaye d'avoir la double approche, c'est-à-dire avoir une approche qui tient à cette dangerosité, mais en tout cas, on a un espoir et on est convaincu de la possibilité de raccrocher ces familles, ces mineurs, à quelque chose qui soit positif. Et forcément, la réponse de la justice, elle va être, et des services sociaux et de tous les partenaires qui sont mobilisés, elle va être différente s'agissant de ces très jeunes enfants et des personnes qui sont plutôt des adolescents.
Ce n'est qu'à partir de 10 ans que les mineurs sont entendus par des policiers antiterroristes. Le plus jeune mineur actuellement mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes a 13 ans, l'âge minimal pour des poursuites pénales. Nous quittons le palais de justice pour nous rendre dans le cabinet du psychiatre Serge Effèze. Cela fait maintenant plus de 2 ans qu'il reçoit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière des jeunes qui ont succombé aux sirènes du djihad. Depuis 2015, Serge Hefez, vous recevez en consultation des jeunes gens qui ont voulu tout plaquer du jour au lendemain pour Daesh. Des jeunes filles qui ont voulu devenir des fiancées de Daesh, des jeunes garçons, des jeunes hommes qui ont voulu devenir des soldats du califat. Ce sont des jeunes qui sidèrent la France entière, qui sèment aussi parfois l'effroi. Est-ce que vous, ils vous sidèrent, ces jeunes-là ?
À la fois, ils me sidèrent et ils ne me sidèrent pas. Ils ne me sidèrent pas au sens où ceux que je vois, ce sont des adolescents qui ont entre 14 et 18 ans et qui ne sont pas si différents des adolescents que je rencontre depuis 30 ans. C'est des adolescents en crise, c'est des adolescents sous emprise, c'est des adolescents qui cherchent une voie, qui cherchent du sens. Et ces adolescents-là ont rencontré, à un moment de leur parcours, des rabatteurs qui ont su utiliser leurs failles, qui ont su les percevoir d'abord, et qui savent quasiment pour chacun comment élaborer une stratégie pour les faire sortir de leur milieu naturel et rentrer dans cet autre milieu qui est le milieu radicalisé de Daesh. Ils s'extraient donc de la réalité partagée par la plupart des gens pour rentrer dans une autre réalité, qui est une réalité folle, une vraie réalité paranoïaque. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent eux-mêmes fous et paranoïaques, mais ce qu'il faut bien voir, c'est la force d'adhésion des groupes, la force de la paranoïa groupale. Vous savez, quand on a vu des pays comme le Rwanda, où la moitié de la population se mettait en 6 mois à massacrer l'autre partie de la population, c'est pas parce que la population est faite de gens qui sont dingues, c'est parce qu'on peut adhérer, en n'étant pas dingue, à une idéologie qui est complètement dingue.
Est-ce que vous avez des jeunes en consultation qui vous ont parlé d'attentats ? Qui vous ont dit qu'ils auraient été prêts, à un moment donné, à commettre des attentats au nom de Daesh?
Ah oui, on a connu plusieurs jeunes qui étaient prêts à commettre des attentats, soit des attentats suicides, soit des attentats contre un grand magasin, contre un lieu public, etc. Ils étaient effectivement, ils avaient été amenés progressivement à trouver naturel à la fois le fait de se sacrifier eux-mêmes et en même temps de montrer par cet acte spectaculaire à quel point leur combat était juste. Le pouvoir de transformation de leur vision du monde est tout à fait déconcertant. Mais ce qui est encore plus déconcertant, c'est quand ils reviennent de ça. Parce que quand ils reviennent, je pense particulièrement à une jeune fille que j'ai vue récemment, qui est tellement enjouée, qui est tellement pleine de bons sentiments, et cette jeune fille était vraiment sur le bord de commettre un attentat.
Elle a été interpellée à temps,
absolument. Au fond, on peut presque invoquer un dédoublement de personnalité. C'est-à-dire que ce qu'elle était devenue avec le processus de radicalisation n'a rien à voir avec ce qu'elle est au fond de sa personnalité. Mais il faut voir que dans le processus d'embrigadement, il rentre dans une logique qui est une logique hors-monde. C'est-à-dire, ils sentent que les autres sont devenus tellement menaçants qu'ils sont déshumanisés. Ce ne sont plus des humains, ce sont comme des forces du mal, ce sont comme des démons, comme des gens qui veulent lutter contre le bien, la pureté, la régénération que elle-même se sentait incarner à ce moment-là. Donc finalement, commettre un attentat contre ces gens, c'est pas commettre un attentat contre de vraies personnes, c'est commettre un attentat contre des choses.
Est-ce que vous réussissez à éloigner de Daesh ces jeunes gens ?
Alors, je ne vais pas vous dire que ça marche à tous les coups. On a les mêmes difficultés que tout le monde. Et je ne sais pas qui pourrait prétendre d'avoir des résultats qui marchent à tous les coups avec des jeunes radicalisés. Je crois que c'est important de le comprendre. Mais ça marche plutôt bien pour un certain nombre. Alors, c'est encore un peu tôt hein, pour faire. Parce qu'il faut vraiment du recul pour savoir jusqu'à quel point ça a marché. Vous savez, il y a un jeune homme dont je me suis occupé, tout allait bien, il en était sorti, 6 mois étaient passés, 8 mois étaient passés, tout le monde se congratulait, et puis il a replongé dans l'idéologie radicale. Il est en Syrie à l'heure actuelle, il est sans doute en train d'essayer de rentrer.
Dans mon pays, on peut être populaire ou discret.
Timide ou grande gueule.
Écouter de la musique ou faire du sport.
Avoir des amis ou rester seul.
Aller au cinéma, jouer à la play ou manger des tacos.
Aimer la nature et les animaux.
Suivre les youtubeurs.
Regarder la télé ou snapper.
Dans mon pays, on peut avoir des idées et des avis et on peut même les exprimer.
Dans mon pays, tout le monde peut se connecter.
Dans mon pays, parfois, j'ose entreprendre et même me faire entendre.
Dans mon pays, je trouve que la démocratie s'en va petit à petit.
Dans mon pays, parfois, je me dis que je n'aime pas ma vie. Parfois, je suis incompris.
Parfois, j'ai peur dans mon pays.
Parfois, j'explose dans mon pays. Alors, je regarde les autres pays, et ils explosent aussi les autres pays.
Il est sombre, ce pays.
Il est injuste, ce pays.
Il est aveugle et sourd, ce pays.
Il me juge ce pays. Il est absurde, pathétique et hypocrite ce pays. Je n'en veux plus de ce pays, je n'en peux plus de ce pays.
Je me radicalise.
Quand je m'évade de mon pays, que je navigue de pays en pays, ça me donne des envies.
Tu te radicalises.
Parfois je rêve d'un autre pays qui est au paradis.
Il se radicalise.
Tu te radicalises. Elle se radicalise.
Je me radicalise.
Anissa est assise sur son lit avec des petites étoiles qui brillent sur les murs, des bijoux et du maquillage sur une étagère. Anissa a 16 ans. Cette année, elle passera son bac. Elle est l'une des 60 mineurs poursuivis par la justice antiterroriste. Elle n'avait que 13 ans quand elle a failli s'envoler pour la Syrie pour un garçon avec qui elle n'avait échangé que quelques SMS. Ses parents, accaparés par d'autres soucis, ne se doutaient de rien. Anissa a finalement été interpellée à temps et sa mère ne peut s'empêcher de fondre en larmes quand elle repense à cette interpellation musclée un matin à l'aube par des policiers cagoulés du raid. Dans sa chambre rose, Anissa ressemble à beaucoup d'autres adolescentes romantiques.
Bah, ça a commencé quand je suis tombée amoureuse d'une personne. Cette personne, je l'ai connue, elle était en France. Elle était en prison à l'époque où je lui parlais et on a appris à se connaître. Cette personne m'a envoyé des messages sur la religion, sur l'islam. Et la personne, elle me disait qu'il fallait quitter la France pour une terre sainte. Et moi, prise par les sentiments, on va dire, j'ai voulu suivre cette personne et quitter ma belle chambre.
À l'époque, vous aviez quel âge ?
Quand j'ai commencé à lui parler, j'avais 13 ans et demi.
Et lui ?
Il en avait 21.
Et en fait, vous ne vous êtes jamais rencontrés ? Vous avez échangé par téléphone ou avec des messages Facebook, en fait, c'est ça ?
Quand on a commencé à parler, c'était par texto. Et je savais qu'il était en prison, mais il ne voulait pas me dire pourquoi. Et on a continué à parler par texto, etc. Et quand il est sorti de prison et qu'il s'est rendu là où il voulait aller, à l'époque où je parlais, il était en Turquie. Il me parlait sur WhatsApp via message WhatsApp avec un numéro turc. Et c'est comme ça qu'après, il essaie de me faire venir, on va dire.
En Syrie ?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il vous disait, en fait, pour vous faire venir ? Pourquoi il vous disait que c'était attirant, la vie en Syrie ?
Il me disait que j'avais ma place là-bas, que si j'avais besoin de quelque chose, il sera à côté de moi, qu'il pourra m'aider, et que je serais sous son aile, que j'avais pas à m'en faire, et que déjà j'étais pas la seule fille à y aller, qu'il y en avait déjà beaucoup qui m'attendaient. Et il faisait tout pour me rassurer, pour me dire que c'était la meilleure des choses à faire, que j'étais dans un pays de couffards, enfin de mécréants, et que j'avais rien à faire ici.
Et pendant des mois, il a essayé de vous convaincre de venir en Syrie.
Oui, pendant plusieurs mois, il a commencé à m'envoyer des rappels, on va dire. Il n'y allait pas directement, en fait, il ne voulait pas me dire directement de venir, mais il m'incitait en m'envoyant des messages de paix, de religion, enfin, des choses comme ça. Après, il commence à m'envoyer des vidéos qui expliquaient pourquoi c'est bien d'aller en Terre Sainte. Donc, je me renfermais sur moi et c'est le soir dans ma chambre que je parlais avec lui. On va dire que c'était mon petit secret.
Donc vous aviez cette double vie en France, vous parliez avec lui en secret, et puis le jour où vous alliez à l'école, vos parents ne se doutaient de rien, et lui, en fait, il cherchait à vous faire venir, il proposait de vous envoyer des papiers pour vous faire passer la frontière, il vous a parlé de passeur, c'est allé très loin.
C'est vrai qu'au début, il essayait de me rassurer au maximum, donc il me disait que... Enfin, c'est quelque chose qui m'a fait rire sur le moment parce que je savais très bien que c'était pas vrai. Il m'avait dit qu'il pouvait me prendre un billet pour une semaine et que j'aille voir en fait ce qui se passe là-bas et que je revienne. Mais ça, je savais très bien que c'était pas vrai vu que j'avais vu des témoignages à la télé, des personnes qui avaient beaucoup, beaucoup attendu avant de venir parce qu'il paraîtrait qu'on brûle les papiers. Enfin, ils ont plus accès à leurs papiers d'identité. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai compris que bon, ça allait loin, que... Je pense que si j'y allais, je ne serais jamais revenue. Donc, d'un côté, j'avais vraiment peur de franchir le pas.
Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes filles de votre âge qui ont été en lien ces derniers mois avec Rachid Kassim, par exemple, sur la chaîne Telegram. Rachid Kassim qui les a incitées à commettre des attentats en France. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse comme ça
tomber dans les griffes d'un recruteur ou d'un terroriste à distance.
Bah, c'est vrai que quand on est jeune et qu'on n'a personne pour nous conseiller, pour nous aider, bah forcément on peut vite tomber dans le piège. Moi, je vais pas dire que ça m'est vraiment, enfin ça m'est arrivé, mais j'ai pas été jusqu'à faire un attentat ou quelque chose comme ça. Au contraire, je pense que justement j'ai été arrêté à temps et que ça aurait pu être pire pour moi. Que là, franchement, on m'a sauvé, on va dire. Même si ça me laisse des traces, ça me laisse un passé assez compliqué, bah ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que quand on est jeune, bah on sait pas vraiment ce qu'on fait. C'est plus dans la naïveté, on est en quête de personnalité, on va dire. On essaie de se comprendre, de se chercher. Donc le premier arrivé, bah c'est pas forcément la bonne personne, mais on le suit les yeux fermés.
Donc, avant votre interpellation, vous avez pris conscience de la situation et finalement, vous avez renoncé à partir à temps. En même temps, vous avez été interpellé, puis placé en garde à vue par les policiers antiterroristes. Comment vous avez vécu ce moment? Vous étiez toute jeune encore?
Bah, quand j'ai été interpellé, j'avais 15 ans. Donc, c'était 2 ans après l'histoire, on va dire. Et cette histoire, elle s'est étalée sur 2 ans et demi quand même. Donc c'était vraiment une histoire assez longue. Et en fait, je pensais le connaître. Donc au final, je me suis trompé et ça m'a... En fait, l'interpellation, j'ai envie de dire, ça m'a vraiment sauvé. Parce que j'aurais pu aller loin. Je pense que j'aurais pas été capable de le faire. Mais si les policiers seront pas venus à temps, je pense qu'il aurait pu... Il aurait vraiment pu faire quelque chose pour que j'y aille vraiment, vu qu'il m'a envoyé sa femme me parler. Il m'a envoyé aussi des numéros de contact qu'il connaissait. Et j'ai jamais contacté ces personnes, vu que bah, la seule personne qui m'intéressait, c'était lui. Et du coup, bah, c'est vrai que quand j'ai été interpellé, ça a été un peu compliqué. Ça m'a choqué, ça m'a traumatisé. Et mes parents aussi, enfin ma famille, mon petit frère, tout le monde était choqué. Et même autour de chez moi, les gens en parlaient. Enfin, c'était pas... On me voyait pas, en fait, comme cette personne-là. Même moi, je me demandais si j'étais pas un monstre, en fait, après ce que j'avais fait. On m'accuse quand même d'association de malfaiteurs terroristes. Et franchement, je me vois vraiment pas comme étant une terroriste, vu que ma vie, elle est banale. Enfin, depuis, j'ai retiré le voile, je suis féminine. Enfin, je me sens vraiment... Je me sens pas comme cette personne qu'on me décrit.
Anissa risque une peine de 5 ans de prison. Elle va continuer à se rendre au lycée tout en respectant son contrôle judiciaire en attendant son procès. Au palais de justice de Paris, nous avons rencontré 2 des 7 juges du tribunal pour enfants qui ne traitent quasiment plus que des dossiers de terrorisme depuis plusieurs mois. C'est la première fois qu'ils s'expriment devant un micro. La parole de ces juges qui ne rendent justice qu'à huis clos est extrêmement rare. À leur demande, nous respecterons leur anonymat.
Voilà, ce qui peut être inquiétant, c'est pas forcément l'explosion des dossiers, mais c'est de se dire pourquoi un jeune, bon, il y a tous les cas de figure, mais pourquoi un ado, allez, c'est souvent des jeunes de 16 ans, a eu envie de partir, est parti ou n'est pas parti, mais a eu envie de partir en Syrie. Moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours de ce jeune, qu'est-ce qui s'est passé ou qui s'est pas passé, qu'est-ce qu'on lui a proposé ou pas proposé, qu'est-ce qui a été loupé. C'est plus inquiétant que de se dire pourquoi tel jeune a eu l'idée de piquer un CD à la FNAC ou un téléphone portable à son petit copain de collège.
Il y a plusieurs mineurs que vous avez jugés qui sont rentrés de Syrie, qui sont en effet partis comme ça du jour au lendemain. De façon générale, il y a beaucoup de mineurs qui se radicalisent très vite, qui sont souvent embrigadés par des recruteurs. J'imagine qu'au tribunal, c'est difficile pour vous de faire la part entre le côté victime du mineur qui a été embrigadé comme ça par un recruteur. C'est ce que disent les parents souvent. Il a été victime de quelqu'un. Et puis, eh ben, la part de culpabilité, d'être parti et puis peut-être d'avoir porté une arme sur place ou d'avoir eu cette velléité en tout cas ou des projets d'attentat en France. Comment on fait pour juger entre cette part de victime coupable par rapport à ces mineurs qui sont des êtres quand même assez fragile et en construction?
D'abord, il y a une première dimension qui est la fascination. C'est des mineurs qui fascinent, mais même les professionnels. parce que les actes qui sont proposés, et moi j'étais amené à juger un passage à l'acte, effraient. C'est des tentatives de meurtre, c'est impressionnant. Et puis c'est lié aux actes terroristes, et il y a une dimension médiatique forte. D'abord, cette dimension d'inquiétude, il appartient au tribunal de la mettre de côté, pour y remettre de la raison, pour y remettre de la prudence, et revoir derrière toute cette inquiétude et l'acte qui est qualifié, ce que disait ma collègue, c'est-à-dire un adolescent. Pourquoi lui, il a eu ce projet-là? Parce qu'il n'y a pas vraiment de profil type.
Les mineurs que vous avez vus, une fois qu'ils sont devant le tribunal, est-ce qu'ils prennent conscience des actes qu'ils ont commis ou qu'ils ont voulu commettre? Est-ce qu'ils arrivent à avoir du recul après coup?
Alors, sur ce que j'ai jugé, ce que des collègues ont jugé, il y en a qui sont encore à l'audience en train de revendiquer l'acte. Il y en a, et bon, je pense à un, qui lui, en revanche, avait complètement adopté le discours inverse. La difficulté aussi, c'est le soupçon qui, sur ce genre de dossier, est généralisé pour tout le monde, mais même les magistrats, l'idée que le discours est faux. Si quelqu'un affirme, si, mais moi je suis encore affidé à Daesh, à l'EI, bon, et bon, voilà, là ça fait plus, il y a plus de soupçons puisque il y a le discours presque attendu. En revanche, si la personne fait un discours de repentance ou plutôt en disant de réflexion critique, parce que l'adolescence c'est plutôt ça qu'il faudrait qu'il ait, c'est un discours de remise en question, de discours critique, d'ouverture, eh ben alors là c'est plus dur de le croire. Et puis pour les mineurs, il y a les dispositions de l'ordonnance de 45 qui ont valeur constitutionnelle dans leur article 2 et qui disent que de toute façon, même quand c'est une peine, la priorité est éducative. Autrement dit, même si on rentre en condamnation avec une peine, le but, le principe qui oriente cette peine, c'est est-ce qu'elle va permettre à ce mineur qui est peut-être devenu un jeune majeur de s'ouvrir davantage, de s'insérer dans la société, d'avoir un avenir. Donc sur le quantum de la peine par exemple, on va éviter une peine qui va pourrir quelqu'un. Est-ce qu'il faut le maintenir en détention? Ça dépend. Est-ce qu'il faut l'y mettre s'il n'y était pas? Ça dépend.
Et vous avez l'impression que vous jugez ces mineurs qui ont voulu partir sur une terre de djihad ou qui sont partis exactement comme vous jugez les autres délinquants?
Alors il faut pas se faire d'illusions. On sait que notre décision, elle est attendue plus que d'autres. Elle devrait pas peut-être, mais c'est une réalité. Elle est attendue plus que d'autres. Mais justement, nous, les juges, je pense que tous les juges, même ceux qui jugent les majeurs, et en tout cas, nous, les juges des enfants, j'essaie de garder la tête froide, de garder raison et de les juger, j'allais dire, mon âme et conscience, et sans céder à la pression de l'air du temps, à l'idée qu'il faut que je rassure un tel ou que je, voilà, que je fasse plaisir à un autre.
C'est évident que réussir à s'abstraire de la pression de la société, de l'impact que les actes terroristes ont eu sur le territoire. C'est pas évident. Les inquiétudes qui sont exigées du point de vue de la société, c'est sûr que sur cet équilibre à trouver, eh bien, même si le rendre compte à tout à chacun, en fait, plutôt que aux parties à l'audience, n'est pas ce qui est en priorité, ça compte. Donc là-dessus, sur cet équilibre-là, peut-être que ces infractions, elles sont devenues, ou elles sont sanctionnées plus lourdement maintenant qu'elles l'auraient été il y a un certain temps. Mais après tout, des jeunes radicalisés, il y en avait avant que ce soit sous l'idéologie de Daesh. S'il fallait systématiquement garder en prison dès qu'on a peur du moindre projet, bon, on vit plus en société. Et c'est pas ce qui nous est demandé. C'est cet équilibre-là qu'il faut faire, mais c'est pas parfait. Une fois de plus, on n'a pas de boule de cristal.
Les enfants de Daesh, c'était un reportage de Sophie Parmentier. Prise de son, Clémence Bonfils, Romain Luquiens et Georges Robert. Mixage, Nicolas Slimani. Réalisation, Michel Soulier, assisté de Stéphane Combe. À la semaine prochaine.